Poire. Ce soir, nous sommes en... compagnie de Jean-Philippe Leroy et de Bernard Dupont. Avec un T, m'a-t-il dit, parce que avec un D, ce ne sont pas des vrais. Alors, Jean-Philippe Leroy, nous l'avons déjà reçu deux fois, me semble-t-il, dans nos...
C'est ça, oui, deux
dans,
fois, oui.
Voilà, dans nos studios.
Une fois début 2009,
oui.
Et puis une fois, je crois, au mois de septembre 2000.
Voilà, mais c'était plus modeste, au niveau du temps, je veux dire. C'était dans le cadre des reportages. Vous savez, les reportages, ça passe tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 8h du matin et à 12h30 et le dimanche à 12h30, 10-15 minutes à peu près pour se faire connaître, pour dire, ben voilà, voilà ce que je fais, voilà ce que nous organisons et on a besoin de vous, etc., etc. Alors, aujourd'hui donc 1h15 à peu près pour Jean-Philippe Leroy qui est photographe et président de l'association Regarde Ailleurs. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour, bonsoir et bonne année, meilleurs vœux hein, également, c'est d'époque, de période.
Bernard Dupont, Bernard, bonjour.
Bonsoir et bonne année à tout le monde.
Vous êtes bénévole à l'association.
C'est exact.
Alors, moi, messieurs, au-delà de ce que vous nous avez dit, Jean-Philippe, il y a donc quelques mois maintenant, mais je crois qu'on va y revenir, hein, on va en reparler pour nous remémorer tout cela. Au-delà de tout ce qui a été dit déjà sur votre association et sur vos actions, parce qu'il y a plusieurs actions, moi il y a quand même des phrases que j'ai retenues à travers ce que vous avez dit, à travers ce que vous avez écrit, à travers ce qu'il y a sur votre site. J'ai noté par exemple, ils n'ont rien. Et ils donnent tout. J'ai noté également projet modeste, projet quand même. Aider, même un peu, c'est notre projet. Alors, je trouve ça très, très ambitieux et en même temps trop modeste, hein, j'allais dire. Trop modeste. Alors, avant d'aller plus loin, vous allez nous expliquer tout d'abord ce qu'est l'association Regarde Ailleurs.
Alors l'association Regarde Ailleurs, en fait, si je reprends les statuts et en fait l'objectif de cette création, de cette naissance en fait en 2006, c'est d'utiliser un média culturel, donc en l'occurrence la photographie et la culture musicale, pour venir en aide à une population défavorisée. Donc aujourd'hui en fait, pour ce qui est de la culture, on essaye donc de mettre en avant la culture et de montrer ce qui se passe au Cap Vert. Donc en fait le Cap Vert, pour je le rappelle, c'est une archipel de 10 îles qui se situe au large du Sénégal, entre le Sénégal et le Brésil, composé de 10 îles dont 9 sont habitées. Donc en fait l'association Regarde Ailleurs, son objectif aujourd'hui, c'est d'utiliser le média photographique, donc les reportages photographiques que je réalise au Cap Vert depuis 2005, pour mettre des projets humanitaires, des projets de développement, des projets d'aide en faveur des enfants du Cap Vert. Voilà, grosso modo, pour résumer rapidement. L'objectif de l'association.
Voilà, et nous allons y revenir. Vous, Bernard, comment avez-vous découvert cette association?
Ben, par le biais de Jean-Philippe, je connais depuis un certain temps. Et...
C'est vrai qu'on était anciens collègues de
travail,
de boulot, en fait, et c'est vrai qu'on s'est connus il y a maintenant à peu près 10 ans, quoi.
Hein, par là, ouais.
Dire. Voilà. Et donc, Jean-Philippe a su vous convaincre?
Ben, on a plusieurs fois parlé du Cap Vert, on a parlé de la sauce, des projets.
Vous connaissiez le Cap Vert avant de connaître Jean-Philippe?
Non.
Non, à travers la musique peut-être, non. Comme tout le monde, et encore.
Et encore même pas, non, parce que je connaissais plutôt la musique sud-américaine, mais je ne savais même pas qu'il y avait une culture musicale.
Qui avait 10 îles, avec 450 000 habitants.
Ouais, c'est ça, 450 000, 500 000. Alors... Il y a plus d'un million de Cap-Verdiens au monde.
Oui, mais
et il y en a 500 000 qui, grosso modo, qui sont habitants au Cap-Vert. Alors après, on n'est pas tous d'accord sur les chiffres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a, en gros, 50% au Cap-Vert, 50% à l'extérieur. Même s'il y en a peut-être un peu plus à l'extérieur.
L'extérieur, c'est le Portugal et le Brésil?
Portugal, Brésil, États-Unis, France, Hollande,
Luxembourg.
Non, il y a des Cap-Verdiens un petit peu partout.
Voilà. Et alors, la superficie totale des îles, c'est 4 033 km². C'est pas énorme.
Ouais, c'est la moitié de la Corse en fait. Oui. Si on prend un département français, en fait, voilà, ça représente un département, un petit département français. Donc c'est minuscule en termes de superficie. Par contre, quand on commence à voyager au Cap-Vert, on a l'impression que le Cap-Vert est immense, quoi. quoi. Bon, je fais une petite aparté sur le dernier voyage que j'ai fait. J'ai traversé le Cap-Vert, donc du nord au sud, pour rejoindre l'île de Brava, la plus petite île et la plus inaccessible. J'ai voyagé pendant 37 heures en bateau effectif, plus 25 heures d'attente. Donc c'est quand même des voyages qui sont très très longs. Donc en fait, on a l'impression que le Cap-Vert, quand même, malgré tout, est immense, parce que les transports sont relativement longs.
C'est pour cela aussi qu'ils ont beaucoup de patience, qu'ils prennent le temps.
Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils prennent, c'est vrai qu'ils prennent le temps. C'est des gens qui n'aiment pas spécialement voyager. Ils aiment pas, c'est pas du tout des marins. Les Cap-Verdiens, ce ne sont pas des marins. En fait, ils ont vraiment la hantise de se déplacer d'une île à l'autre parce que, bon, ils prennent pas l'avion pour des problèmes financiers. Et c'est vrai que c'est des gens qui ont peur de la mer. Et donc, du coup, ils préfèrent rester dans leur, sur leur île, sur leurs îles. Et d'ailleurs, ils ont bien souvent la connaissance très localisés en fait de leurs îles. Moi, ils me disent à chaque fois, toi, t'es quand même particulier parce que tu connais notre pays bien mieux que nous, tu connais notre île de façon, tu t'es allé dans les endroits que personne veut aller, personne veut voyager parce que c'est des endroits où les gens vivent sans électricité, sans eau, avec des moyens vraiment difficiles, sans connexion, je dirais, à la vie de tous les jours par des moyens routiers et véhiculés. Donc tout fonctionne en âne. Donc après, c'est vrai que c'est des gens qui sont relativement sédentaires, en fait. Hein,
Malgré le fait que ce soit une population très jeune, parce que j'ai noté qu'il y avait 82% d'habitants de moins de 39 ans et 60% qui ont entre 15 et 24 ans.
Ouais, c'est vrai que c'est une population qui est une population très très jeune. Même si on a des gens très très âgés au Cap-Vert. C'est-à-dire que moi j'ai rencontré les personnes les plus âgées que j'ai rencontrées dans ma vie, ce sont des Cap-Verdiens en fait. Là par exemple, pour me parler d'un village de l'île Saint-Nicolas, j'ai rencontré trois personnes qui ont plus de 100 ans en fait dans ce village. Donc il y a une personne qui a 102 ans, une personne qui va avoir 100 ans cette année et une autre de 101 je crois ou 102 aussi. Et en fait, alors pourquoi il y a une population jeune? Moi, je me fais ma petite analyse en fait, étant donné qu'au Cap-Vert, les familles sont relativement vastes. Je dirais que la plus petite famille, en moyenne, ils ont entre 3 et 5 enfants. Donc du coup, effectivement, si on fait un ratio, on arrive à une population effectivement en moyennant à des populations.
Alors, ce sont des traditions, c'est la religion, c'est le fait qu'il n'y ait pas de moyens de contraception pour qu'il y ait autant d'enfants. Il y a tout ça.
Alors, c'est une bonne question. Je pense que historiquement, on pourrait penser que effectivement les problèmes de contraception ont été mal abordés. Aujourd'hui, il y a une sensibilisation qui est faite au niveau des écoles et des lycées. Alors effectivement, je pense que bon, après c'est toujours un petit peu difficile de se positionner par rapport à ça. Moi, je pense qu'il y a une culture de fête en fait. Les jeunes restent à la maison, ont pas forcément de travail, etc. Et donc du coup, pas de moyens de contraception et on développe la famille à partir de 16 ans en fait, quoi, voire même des fois plus jeune. Donc
Je pense que l'impact économique de la contraception est peut-être trop important par rapport à la pauvreté de ces gens-là, quoi.
Ouais, après c'est vrai que c'est peut-être pas une priorité une priorité de travailler sur la contraception. Je pense qu'aujourd'hui il y a des choses qui sont faites au niveau du ministère de la santé au Cap-Vert, mais je pense que il y a une inertie, faut que ça se mette en place, faut qu'il y ait une prise de conscience, et je pense que c'est aujourd'hui peut-être un petit peu prématuré en fait. Peut-être que dans quelques années on va avoir un impact sur le phénomène de contraception. Mais c'est vrai que moi, pour avoir discuté un petit peu avec des jeunes femmes ou des femmes là-bas au Cap-Vert, bien souvent elles se retrouvent avec des enfants qu'elles n'ont pas forcément souhaité en fait, quoi. Et c'est vrai qu'on arrive à avoir des familles des fois énormes. Bernard, je sais pas si tu te souviens, donc pour revenir à une personne qui habite sur Saint-Nicolas
de Ligia,
qui a maintenant je crois 8 ou 9
j'allais dire 7 mais ouais peut-être plus
ou 9 filles, et donc du coup tous les pères sont différents, quoi. Alors je porte pas de jugement de valeur, hein, bien entendu, ça c'est mais c'est un constat, et c'est quelque chose qui est relativement fréquent. On se retrouve avec une femme élevant 7 ou 8 enfants qui sont d'un père différent, et il y a pas d'hommes à la maison, quoi. C'est-à-dire que les femmes doivent assumer un petit peu cette éducation de ses enfants dès le plus jeune. Enfin, c'est relativement compliqué. Et c'est vrai que moi, j'admire la force et le travail des femmes au Cap-Vert. Hein.
Alors, Jean-Philippe, je le craignais un petit peu, mais nous sommes entrés d'emblée dans le vif du sujet. Et moi, j'aimerais, parce que j'aime bien connaître les personnes que j'ai, les invités qui est en face de nous, là, et j'aimerais vous connaître un peu plus. Alors, Jean-Philippe Leroy, on y va. Donc, vous êtes jeune, vous êtes né en 1974. Vous avez.
Je commence à être un peu moins jeune, mais.
Ouais, mais quand même, hein. Tu vois, toujours par rapport à. Enfin, bon, je dis ouais. Rien. Vous auriez rencontré la photographie à l'âge de 7 ans.
Oui, tout à fait.
Et depuis 1998, vous vivez pleinement cette passion. Alors, je ne dis pas que vous vivez de cette passion, mais vous vivez pleinement cette passion.
Oui, ça c'est vrai. Donc, ça remonte effectivement à 7 ans. Alors, je ne sais pas, peut-être mon père et ma mère sont en train de m'écouter ce soir. Donc, je me souviens, à l'âge de 7 ans, en fait, mes parents m'ont donné un appareil photo qu'ils avaient gagné, eux, d'ailleurs. Donc, moi, j'ai toujours été passionné par l'image et surtout par l'image que faisait mon oncle, en fait, puisque j'ai un oncle qui photographes qui en a vécu, qui en vit moins aujourd'hui, donc un photographe noir et blanc de reportage. Donc j'ai toujours aimé regarder son travail, enfin ça m'a toujours fasciné de voir ces images en noir et blanc de la famille, des gens qui pouvaient photographier dans la rue ou pour son travail, pour faire de la publicité ou autre. Et en fait, moi je me suis toujours dit qu'une bonne image ou une image valait bien mieux que des paroles. Et moi, je me suis toujours, j'ai toujours été un petit peu rebuté par la lecture ou par tout ce qui était écrit. Je trouve que une image va donner un message beaucoup plus fort et beaucoup plus immédiat que du phrasé, que de la parole. Alors après, c'est pareil, je juge pas les gens qui écrivent, hein, bien au contraire. Moi, je suis incapable de le faire. Et donc pour moi, l'image, c'est mon moyen de m'exprimer. C'est la façon que j'ai pour dire la sensibilité que je peux avoir sur certaines populations, puisque effectivement moi je me suis un petit peu plus spécialisé dans la photo, dans la photographie humaniste, je sais pas comment on peut l'appeler, mais je m'intéresse beaucoup plus aux populations qu'aux paysages. Donc c'est vrai que pas mal de gens m'ont dit, mais ça fait 7 fois que tu vas au Cap-Vert, on sait toujours pas à quoi ça ressemble le Cap-Vert, quoi. mis à part par cette population, quoi.
Alors vous êtes également passionné par le vin.
Oui, tout à fait.
Et en plus, vous aimez aussi les vendanges dans le Beaujolais.
Eh oui, tout à
fait. Alors, vous aimez regarder ou travailler ? Parce que c'est pénible, les vendanges.
Eh bien, en fait, je fais
des photos.
Je fais la totale. C'est-à-dire que quand je fais les vendanges, mon objectif aussi, il est bien entendu de ramasser du raisin dans les meilleures conditions pour que le vigneron puisse faire sa meilleure cuvée en fonction du millésime. Mais je me donne un objectif de faire un reportage photo en même temps que je vendange, en fait. Parce que tous les ans, les équipes changent. Moi, ça fait donc depuis 80 16 que je vais là-bas, dans le Beaujolais, et donc tous les ans je veux remettre aux vignerons un recueil d'images et puis des moments passés, parce que c'est vrai que bah, la fête des vendanges c'est une fête. Enfin, Bernard, tu as participé, donc tu peux aussi en parler, et c'est vrai que c'est des moments énormes au niveau de la rencontre, au niveau des échanges, de la simplicité. On mêle un petit peu les différents niveaux sociaux, on a aussi bien des chirurgiens que des gens qui n'ont pas de travail et qui n'ont pas de ressources. Donc c'est quelque chose, moi je dis que c'est une belle école de la vie, en fait, que de passer un peu de temps dans les vendanges, dans la vigne, avec des vignerons, et puis de côtoyer un petit peu des gens qui sont d'horizons différents, quoi. C'est quelque chose de très très riche. En tout cas, moi j'y suis allé en 96 parce que j'avais besoin d'argent, j'étais étudiant, et en fait depuis 96 j'ai pas pu me séparer, et maintenant tous les amis qui dirigent un petit peu, enfin qui ont dirigé ce domaine viticole, enfin c'était pas des amis à l'époque, c'en est devenu, et je vais les voir relativement souvent parce que c'est des gens de cœur et que je garde près de moi.
Vous êtes également un spécialiste, là vous n'êtes pas un amateur de l'informatique.
Oui, bah c'est mon métier, en fait, mon métier d'origine, en fait, ma formation professionnelle d'origine. Donc j'ai un diplôme d'ingénieur en informatique industrielle, j'ai commencé un doctorat en fait en traitement du signal de la parole, donc ce qui n'a rien à voir avec la photographie, ni avec les actions humanitaires, ni avec le vin, mais bon, moi je dis que il y a tellement de choses qui nous entourent au niveau des sciences, au niveau des échanges humains, que je m'intéresse à beaucoup de choses. Et en fait, aujourd'hui, je suis même en train de faire une mutation professionnelle, puisque je vais un petit peu transformer mon activité professionnelle.
Bien. Bernard, puisque nous avons la chance d'être avec un Bernard Dupont avec un T, dites-nous, vous, ce qui est avouable. Vous venez d'où? Vous faites quoi? Quelles sont vos passions?
Alors moi, j'ai grandi à Valence, plus précisément dans le quartier de Valençol. Donc après, j'ai émigré à Romans, si on peut dire.
Donc, ça va, c'est pas trop loin.
Ça a été dur, hein, d'arriver dans le Grand Nord. Et après, moi aussi j'ai participé une année aux vendanges. Bon, toi tu n'y étais pas cette année-là.
Moi j'y étais pas cette année-là parce que j'étais en Bretagne ou je sais pas où.
Mais j'ai connu le milieu lors d'une fête qu'on avait fait ensemble là-bas. J'ai connu
c'est
milieu.
Vrai que moi j'aime bien inviter les gens pour qu'ils découvrent quelque chose que je trouve sympa, et après ils le trouvent sympa ou pas. Mais c'est vrai que depuis 96 j'ai traîné beaucoup de gens dans les portes ouvertes du domaine là où je fais les vendanges, et après les gens ont mis la fête, donc je leur ai dit venez faire la fête en ramassant du raisin, ça sera sympa aussi quoi.
Bon, alors donc Bernard, il aime faire la fête
un petit peu,
voilà, participe aux vendanges,
voilà,
il est allé au Cap Vert.
Voilà, cette année, ouais, c'était la découverte du Cap Vert cette année. Ouais.
Vous parlez portugais?
Du tout.
Ça doit pas être facile.
Ah, c'était pas facile du tout.
Vous allez vous y mettre au portugais?
Je pense que si je vais y retourner, il va falloir que je m'y mette parce que c'était une galère quand même par rapport à la langue.
Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est.
Alors, vous, Jean-Philippe, vous le parlez bien sûr?
Oui, je le parle bien sûr. Je vais pas dire que je suis le Shakespeare du portugais, mais je me débrouille dans toutes les situations. Enfin, aujourd'hui, le problème de la langue pour moi, c'est plus du tout une barrière. Alors, en plus, moi, je parle pas portugais. C'est-à-dire que donc les Caverdiens sont contents de m'entendre parce que je parle le créole. Enfin, je les imite en fait. Moi, j'ai fait quelques cours de portugais pour avoir quelques notions. Et aujourd'hui, je les imite parler. Donc, je parle le créole capverdien de Saint-Nicolas en fait. Donc, quand je rencontre des gens sur une autre île, ils sont surpris d'avoir.
C'est encore plus. D'accord.
C'est-à-dire que c'est le créole de Saint-Nicolas, c'est le ch'ti du Cap-Vert quoi en fait. Donc,
dites-nous bonjour là et souhaitez-nous une bonne année.
Maintenant c'est bonsoir, donc botard. Me dizer un feliz para toute gente que mora na lugar de perto de cidade de Bourg-lès-Valence.
Bien, j'espère que vous n'avez pas dit d'insanité.
Non, j'ai simplement dit bonne année à tous les gens qui habitent la région de Bourg-lès-Valence, et je leur ai dit bonsoir, tout simplement.
Très bien. Bernard, vous voulez rajouter quelque chose?
Je ne sais pas.
Au cours de l'émission, hein, puisqu'on a encore du temps. Alors, par contre, aujourd'hui, il y a en plus, Jean-Philippe, vous avez une grande responsabilité, puisque c'est vous qui avez composé la programmation musicale.
Ouais, alors.
Et moi, je propose d'ailleurs que nous écoutions maintenant le premier morceau que vous avez choisi.
Alors, le premier morceau que j'ai choisi, donc ça s'appelle, c'est une chanteuse qui s'appelle Nancy Ver, que j'ai découvert donc au festival Baia das Gatas la Mindelo, donc au mois d'août 2009, et donc c'est une chanteuse que j'apprécie beaucoup, que j'ai découvert vraiment très récemment, c'est vraiment très sympathique.
Busca vida está no mar, põe na prato que está custando. Oxi, mundo está revés, mundo está complicado. Busca vida está no mar, põe na prato que está custando. Minta lembra tempo das águas, tempo de cojeta na rubeira ou entrada. Minta lembra tempo das águas, tempo de cojeta na rubeira ou entrada. Manhã se planegue, trabalho nunca tem, filho rico nunca é, cozegue nunca faz. Manhã se planegue, trabalho nunca tem, filho rico nunca é, cozegue nunca faz.
lira badiu, esse que é feito, destino badiu, disse que dará sorte de mundo, badiu catã, é pra não viver confortável. Lira badiu, esse que é feito, destino badiu, disse que dará sorte de mundo, badiu catã, é pra não viver confortável. Busca vida, está no mareado. Põe na prato que está custando. Mas hoje o mundo está revés. Mundo está complicado. Busca vida, está no mareado. Põe na prato que está custando. Minta lembra. Tempo das águas, tempo de cojeta na rubeira vou entrar. Minta lembra, tempo das águas, tempo de cojeta na rubeira vou entrar. Manhãs planeguinte, trabalho um cotem, vídeo rico um caê, você quinta faz. Manhãs planeguinte, trabalho um cotem, vídeo rico um caê. Vira badiu, esse que é feio, destino badiu, disse que tá da sorte de mundo, badiu catan, é pra não viver confortar. Vira badiu, esse que é feio, destino badiu, disse que tá da sorte de mundo, badiu catan, é pra não viver confortar. Vira badiu, esse que é feio, destino badiu, disse que tá da sorte de mundo, badiu catan, é pra não viver confortar. Vira badiu, esse que é feio, destino badiu, disse que tá da sorte de mundo, badiu catan, é pra não viver confortar.
Il y a un climat, la chanson vivante que certains médias ont oublié et continuent d'ignorer.
Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean-Philippe Leroy, photographe et président de l'association Regarde Ailleurs, et de Bernard Dupont, bénévole dans cette association. Alors, venir en aide aux enfants de l'archipel du Cap-Vert, favoriser l'accès au savoir et à des repas quotidiens à la cantine, vous en êtes à la cinquième action humanitaire sur le Cap-Vert. Sur votre site, il y a des éditions en français, en anglais, en portugais.
Tout à fait.
Ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Alors, on va commencer par parler de quoi ? D'abord, comment avez-vous découvert le Cap-Vert ? Pourquoi le Cap-Vert et pas une autre, la Gambie par exemple?
Ouais, c'est une très très bonne, très bonne question.
Je vous remercie de m'en poser.
Qu'on pose souvent, et effectivement, oui. ça mérite une petite explication. Donc c'est vrai que depuis un certain temps, depuis que je suis en activité en fait professionnelle, j'ai toujours rêvé. Donc comme on en parlait en première partie d'émission, la photographie m'a toujours fasciné, et j'avais aussi dans mon jeune âge envie de voyager, découvrir un petit peu d'autres pays, d'autres cultures, d'autres horizons. Donc j'avais pour habitude de programmer un voyage chaque année en fait avec ma compagne, et puis donc en 2005 mon objectif était d'aller au Mali pour travailler en fait sur la musique malienne et faire un reportage sur les joueurs sur les musiciens maliens. Et donc à l'époque, donc ce choix, ce sujet a été un sujet qui n'a pas plu à ma compagne. Je me suis dit, faire un voyage à deux, s'il n'y en a qu'un seul qui est passionné par le voyage, c'est pas très très intéressant. Donc du coup, on a cherché à trouver un voyage commun. Donc en fait, donc avec Laurent Charouin, que vous avez reçu avec le groupe Quartier Latin il y a quelques temps.
Hein. Bien sûr. Oui.
Donc Laurence qui joue donc dans ce groupe Quartier Latin, donc la musique latino, et maintenant on peut dire qu'ils font quand même beaucoup de reprises capverdiennes, on est tombé sur le descriptif du Cap-Vert. Donc en fait, moi, le descriptif du Cap-Vert, comme je le lisais, donc avec l'accueil et la chaleur humaine, m'a intéressé, parce que je me suis dit, moi étant photographe de population et de personnages, de culture, je me suis dit, ça c'est un peuple pour moi d'accueil. La musique, puisque c'est aussi un peuple de musique aux multifacettes, avec différents courants musicaux, Donc ça intéressait également Laurence. Donc du coup, on s'est dit, bah voilà, la destination, elle est toute trouvée. On prend un billet d'avion et on part là-bas, quoi. Donc le premier voyage, c'était en mars 2005.
Et alors maintenant, vous en êtes à votre cinquième déplacement humanitaire.
Voilà, on en est au cinquième déplacement humanitaire, donc c'est le sixième voyage, en fait, quoi. Je reviens du sixième voyage, en fait, là. Donc, alors je ne sais pas si je développe tout de suite, parce que moi, si vous me laissez partir, je vais me faire 23 heures.
Je le sais, on a fait deux fois 15 minutes, ça fut fort difficile. Là, on a plus de temps, on va essayer de cadrer un petit peu les choses.
Alors, c'est pour ça que je vous laisse un peu la main.
Voilà, alors, favoriser l'accès au savoir et à des repas quotidiens à la cantine. Cette action-là, comment vous la jouez?
Alors, comment on la joue? Alors, ça a commencé donc en 2005. Alors aujourd'hui, je dirais qu'on se professionnalise, c'est-à-dire que au départ, ça a été un coup de cœur, en fait, le Cap-Vert. On a été accueillis de façon extrêmement généreuse. Donc, pour revenir à la phrase que vous avez reprise sur notre site, ils n'ont rien, ils donnent tout. En fait, ça, c'est quelque chose qui m'a frappé lors du premier voyage, puisqu'on est parti avec un sac à dos et on n'avait pas du tout de logement de prévu. Donc, on a voyagé à pied à la rencontre des gens et on a été accueillis et les gens nous ont donné, c'est-à-dire qu'on avait un repas sur la table qui correspond à un mois de salaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement...
Comment vous l'expliquez, ça? Parce qu'on le retrouve dans pas mal de pays africains, même en Asie, effectivement, des gens qui n'ont rien, même dans l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud.
Alors, moi, je l'explique parce que je leur ai posé la question. C'est-à-dire qu'au début, j'avais du mal puisque je parlais pas la langue. Mais maintenant, je peux prendre du recul et demander aux gens. Je leur dis, mais pourquoi vous me donnez un mois de nourriture? C'est-à-dire que vous me donnez de la viande, vous me donnez du poisson, vous me donnez des légumes, vous en mangez pas et vous me le donnez en un repas. Moi, je peux pas accepter ça. Et ils disent, mais pour nous, c'est grand qu'un étranger qui vienne nous voir dans un village où personne ne passe, ou presque personne. Les gens s'arrêtent, cherchent à rentrer en dialogue avec les gens, cherchent à comprendre comment est la culture. Et pour eux, c'est une reconnaissance aussi. C'est-à-dire que en restant avec eux, c'est une reconnaissance, c'est-à-dire qu'on les ignore pas et on les grandit. Donc c'est pour ça qu'ils veulent qu'ils veulent nous remercier, en fait, pour s'être intéressés à eux, ne serait-ce qu'une journée, deux jours ou trois jours, quoi.
Et alors vous, Bernard, ceci, comment vous l'avez vécu, ça? Le fait qu'effectivement des gens qui n'ont pratiquement rien vous donnent tout.
C'est un petit peu difficile d'avoir l'impression de leur prendre le peu qu'ils ont, mais
disons que c'est vrai que c'est un échange. C'est vrai que bon, Bernard il l'a vécu avec moi, donc c'est pas aussi brusque, je dirais, que quand j'y suis allé tout seul, parce que
il était revenu.
Déjà, il était prévenu. Mmh. Et puis, deuxièmement, c'est vrai que maintenant, moi, comme je vis chez les gens, je vis pas sur leur dos, quoi. Donc, en fait, ce que j'ai mis en place, c'est-à-dire que je dors dans la maison, j'ai une chambre. Et ce qu'on a mis en place avec ces gens-là, c'est que voilà, la nourriture, c'est moi qui.
C'était nous qui l'apportions.
Et donc, du coup, voilà, on a essayé d'établir quelque chose de d'honnête, quoi. C'est-à-dire que je préfère vivre chez les gens que d'aller dans une pension. Mais par contre, je veux pas vivre sur les gens. Donc du coup, voilà, on est venu à dire, ben voilà, on achète la nourriture et puis pour toute la famille, et puis voilà, comme ça c'est...
Excusez-moi, tant que j'y pense, il est possible d'aller au Cap-Vert et de passer à côté de cela et de vivre dans des palaces?
Oui, très possible.
La réponse a fusé.
Vas-y, bah, ouais, je te laisse parler là. C'est...
Ben, en fait, moi, quand je suis arrivé au Cap-Vert, donc je suis arrivé sur l'île de Sal, où c'est plus l'île touristique. C'est pas la plus touristique, mais c'est une des îles.
On peut dire que c'est la plus touristique. Hein.
Tu crois?
Ouais,
j'ai entendu parler de Boa Vista.
Ouais,
c'est
équivalent.
Plus complexe. Mais c'est vrai que si on va au sud de l'île de Sal ou à Santa Maria, c'est que des constructions pour les touristes. Et d'ailleurs, c'est là où c'est très pénible, parce qu'il y a une population qui est dirigée vers les touristes, qui pense qu'à vendre.
C'est la nouvelle Costa Brava?
C'est...
Ouais, enfin moi c'est vrai que j'ai toujours un petit peu du mal à en parler parce que je supporte pas, en fait, ce qui s'y passe sur ce... Bon, alors après, voilà, il y a un public pour ce type de tourisme, mais pourquoi il y a un public? Est-ce qu'on leur propose autre chose, quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va au Cap-Vert et c'est vrai que moi je me souviendrai toujours d'une dame qui est venue dans une de mes premières expos photos sur le Cap-Vert. Elle dit, mais monsieur, moi je suis allé au Cap-Vert, c'est pas des photos du Cap-Vert que vous avez pris là. Donc j'ai trouvé ça drôle en fait. J'aurais voulu l'enregistrer ça parce que c'est quelque chose de... Et je lui dis mais vous êtes allé où? Et elle me dit bah j'étais à Santa Maria à Salle. Et évidemment on peut passer, donc pour répondre à la question, évidemment on peut passer à côté de ça si on se cantonne à dire bah voilà moi je vais à Salle, je vais au bord de la plage, enfin je vais et j'en reste là.
Mais à Salle il n'y a que ça qui est enfin pour des touristes qui est à voir. Après si on va plus au nord à Espargos, c'est le quartier pauvre quoi. C'est on côtoie la misère quoi.
Ouais, c'est même en y allant même pas si haut qu'Espargos. Moi, j'ai fait un reportage en 2008 sur la zone qui s'appelle Prichkou justement. Donc, c'est une exposition que j'ai toujours dans les tiroirs que j'ai pas pu exposer parce que soi-disant trop polémique. Il y a une galerie qui avait pris
pour qui trop polémique pour qui?
Bah, j'en sais rien en fait parce que c'est une galerie sur Marseille qui avait accepté d'exposer ce travail. Donc, j'ai pris en fait en photo un bidonville en fait qui se trouve à côté des hôtels et en fait, ce bidonville, c'est une zone d'habitation des travailleurs. C'est des gens qui viennent des autres îles du Cap-Vert, qui viennent construire les hôtels, mais qui n'ont pas du tout de moyens pour vivre. Donc, moi, je trouve qu'en 2008, pas organiser quelque chose pour accueillir ces gens qui viennent finalement créer la ressource de l'île, je trouve ça un petit peu dommage. Donc, moi, j'ai photographié cet endroit où je suis resté 2 jours avec ces gens. Et j'avais pour objectif donc de faire une exposition en appairant en fait donc une photo noir et blanc de cette zone et une photo relativement bien choisie d'un hôtel qui se trouve en fait à 500 mètres à vol d'oiseau. Quoi.
Alors, ça signifie quoi? Est-ce que ça signifie que le gouvernement ne maîtrise pas la situation ou est-ce qu'il est complice, entre guillemets, de ce type de...
Après, moi je l'aurais posé la question à ces gens qui habitaient là, en fait, donc... Qu'est-ce que vous pensez en fait de l'accueil que vous avez en fait ici? Donc ils se disent c'est misérable. Ils disent même nous, étant donné qu'on a un pouvoir d'achat un petit peu supérieur que chez nous, on serait presque prêt à payer une partie du loyer pour être dans quelque chose de décent, mais on nous donne pas la possibilité d'obtenir ce loyer parce qu'en fait ce qu'on propose c'est des chambres d'hôtel pour touristes, donc c'est pas du tout acceptable pour une personne qui travaille au Cap-Vert. Mais à côté de ça on fait pas des logements pour accueillir ces gens là et ça je trouve que bon, je sais pas ce qui se passe politiquement, pourquoi ça existe, mais je trouve que c'est enfin je le comprends pas aujourd'hui pourquoi on laisse faire ça et à mon avis bon le président de Camara, donc l'équivalent du maire de Lille, je sais pas ce qui compte faire. Est-ce que, parce que aujourd'hui les hôtels sont en train de gagner du terrain, je dirais, c'est-à-dire qu'on est au bord de mer il y a 10 ans et maintenant on commence à rentrer un petit peu dans les terres. Et on s'approche de cette zone qui est une zone relativement sale où il y a les ordures, etc. Et à un moment donné, on va être obligé de la raser parce qu'on va s'approcher des hôtels et ça va pas être acceptable d'avoir une vue sur cette zone-là.
Pas pour ça, oui, bien sûr.
Exactement. Donc, il va y avoir une réelle problématique à gérer et je pense que là, il va falloir que les gens. Alors après, est-ce qu'il y aura plus besoin de main-d'œuvre de ces gens-là et on va leur dire de retourner dans leurs îles? Ou alors, est-ce qu'ils vont mettre en place des systèmes de logement type logement social spécifiques pour ces gens-là qui viennent travailler et apporter leur savoir-faire quoi sur le...
Parce que mis à part le tourisme, ce tourisme-là, est-ce qu'il y a des matières premières, est-ce qu'il y a des richesses à exploiter?
Bah, les seules richesses au Cap-Vert, c'est la mer, donc le poisson. Et le développement agricole quand il y a de la pluie en fait quoi. C'est-à-dire oui. Qu'aujourd'hui les richesses au Cap-Vert elles sont relativement faibles quoi.
Oui, parce que là on est dans ce cadre-là de la pêche et de l'agriculture, on est dans le cadre uniquement de l'autosuffisance.
Bah, disons que ça serait déjà bien.
Oui, c'est encore pire que ce que j'imaginais.
Ouais, parce que l'autosuffisance, nous justement, on essaye de travailler là-dessus pour justement donner de l'autonomie, puisque nous, notre cheval de bataille, c'est l'école, c'est-à-dire qu'on essaye de développer, d'essayer de faire des projets à la racine en fait, c'est-à-dire que c'est les jeunes d'aujourd'hui qui vont faire le Cap-Vert de demain. Donc pour nous, il est important d'aider en fait la population la plus jeune et en plus la plus nombreuse, puisque qu'en fait, au Cap-Vert, comme vous l'aviez dit en début d'émission, on a une population relativement jeune.
Alors c'est pour ça aussi que vous apportez une aide au développement de jardins scolaires, par exemple ?
Oui, alors là, ça c'est vrai qu'on a, on a fait un projet de médiation en 2008, là, sur une école, parce que nous, aujourd'hui, comme je le dis souvent, on essaye de pas faire de... Enfin, c'est plus qu'on essaye, c'est on ne fait pas de l'assistanat. C'est-à-dire que l'idée, c'est on fait du soutien, mais notre objectif, c'est de développer pour que les gens deviennent autonomes. Donc, en fait, même si on fait des distributions de matériel ou de nourriture, on a un bras de levier pour inciter les gens à faire des choses. C'est-à-dire que je prends le projet du jardin potager qu'on a mis en place sur l'île de Saint-Denton, qui donc en fait cette école, on avait dit voilà, nous on va vous aider à apporter du matériel dans votre école, à donner du matériel à vos élèves, mais par contre en contrepartie vous allez développer un jardin potager puisque c'est une zone très fertile en fait au développement, il y a de l'eau, etc. Donc on s'est dit, dans une zone où il y a de l'eau et il y a de la terre, on peut pas imaginer qu'une école ne fasse pas de jardin potager. Alors la problématique, c'est qu'en fait tous les terrains appartenaient à un propriétaire. Donc visiblement avec l'école et le propriétaire ça se passait pas très très bien, et nous on a voulu comprendre, parce que bon, on s'est dit mais pourquoi ils veulent pas faire un jardin quoi. On s'est dit, nous maintenant vous voulez pas jouer, ben nous on vous aide plus quoi. Et on s'est dit, et donc c'est là où s'est dévoilé un petit peu les choses, on nous a dit voilà, le propriétaire veut pas nous prêter, etc. Donc ben nous à l'époque on y est allé avec Laurence pour discuter avec cette dame, et elle nous a dit mais pour que je prête un terrain il faudrait déjà qu'on me le demande. Donc déjà on a tout de suite senti qu'il y avait un problème, comme ça peut exister chez nous en fait, de relationnel hein. Et donc du coup on a expliqué, donc se trouve que cette dame nous appréciait beaucoup et nous connaissait depuis déjà 2-3 ans, donc on lui a dit ben voilà, nous aujourd'hui pour le bien de l'école et pour les enfants et puis pour le village, il est important qu'il y ait un jardin potager à l'école, donc nous on aimerait bien que vous qu'il y ait une part de vos terres pour l'école. Donc bon, après, on a fait des réunions avec le président, avec le directeur de l'école pour essayer de les mettre en relation et pour essayer de comprendre comment ça s'était passé. On a bien vu qu'il y avait des petits soucis internes, et la propriétaire avait peur, parce qu'on n'est pas en France, on n'est pas en Europe, il n'y a pas de notion de papier, de notaire, etc. Elle dit, moi, si je prête le terrain, il ne faut pas que dans 10 ans, vous me dites que le terrain, il est au ministère de l'Éducation. C'est-à-dire que l'idée, c'était de signer un contrat de prêt de terrain pour pouvoir faire ce jardin. Et aujourd'hui, c'est un jardin qui fonctionne depuis début 2009.
Alors, quels sont vos moyens ? Parce que j'ai vu également que vous achetiez des livres, des cahiers, des crayons, que vous occupiez également de l'équipement en matériel pédagogique des écoles, participation financière aux frais de transport scolaire, achat de nourriture, matériel pour les cantines scolaires. Comment vous débrouillez là ?
Alors, oui, ça c'est vrai que c'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs... Je vais faire un petit résumé en fait dans ce qu'on a fait depuis 2005. Donc c'est vrai qu'on a commencé à faire du transport de matériel donc depuis la France jusqu'au Cap-Vert. On s'est vite arrêté de faire ça, c'est-à-dire qu'on a collecté du matériel scolaire, on en a acheté, on l'a fait transporter par bateau donc depuis la Bretagne par une association qui nous a donc d'ailleurs fait grâce de payer le transport. Mais par contre, on a eu d'énormes soucis à la douane. Donc en fait, on a arrêté cette manière de fonctionner, c'est-à-dire de faire de la collecte de matériel scolaire ou de livres, et de les envoyer. Donc maintenant, on travaille en local et on achète tout en local. Alors comment on finance tout ça ? Ben en fait, aujourd'hui, on n'a pas de subvention. C'est-à-dire que bon, on a un petit peu un manque de ressources pour développer des dossiers de financement, etc. Donc aujourd'hui, on est un petit peu en autosuffisance, donc grâce aux adhérents.
C'est une force et une faiblesse, les deux en même temps, ou c'est qu'une faiblesse ?
Disons, bah on en parlera peut-être après dans les projets de développement qu'on a pour 2010. D'accord. Aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est une force, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de montrer que pendant 5 ans, on a fait quelque chose qui tient debout. C'est soutenu et c'est grandement soutenu par les autorités capverdiennes qui nous reconnaissent comme une des plus grandes associations au niveau de l'aide de Saint-Nicolas et de Saint-Anton. Donc pour nous, c'est quelque chose d'assez enrichissant et c'est valorisant aussi. Maintenant, si on veut développer des projets un petit peu plus pérennes, un petit peu plus d'ambition, d'envergure, on va avoir une difficulté de gérer en fait en autonomie. Donc en fait, je disais les adhésions, les dons d'entreprise. qui sont aujourd'hui de plus en plus conséquents. On a un partenaire à Saint-Marcel-les-Valences, la société originale qui nous finance tous nos supports de communication, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et la vente de supports photographiques, c'est-à-dire qu'en fait, là, grosso modo, 60% de nos revenus, c'est la vente de supports photographiques, donc issus de mes reportages photos au Cap-Vert depuis 2005, ou des calendriers photographiques, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vend du support photographique. Et les dons et les adhésions. C'est-à-dire grosso modo, nos moyens, c'est ça, quoi. Alors, ça représente pas une somme d'argent énorme. On est sur des projets de 4 000-4 500 euros à l'année, grosso modo. Là, on vient de terminer un projet qui est plutôt autour de 3 500-3 800 euros. Aujourd'hui, on a, voilà, depuis la création de l'association en 2006, on a déployé en gros 15 000 euros en fait au Cap-Vert. Donc, c'est pas des projets énormes. Alors, à nos yeux, bon, j'avais fait un ratio pour voir un petit peu quelle était l'importance. Ça représente quoi, 15 000 euros ramenés à l'échelle de l'euro, en fait, ça représente 550 000 euros, en fait, grosso modo, pour se donner une idée. C'est-à-dire, d'accord, quand j'avais dit en réunion au ministère de l'Éducation, bon, on vous a aidé à hauteur de 15 000 euros, c'est quand même pas grand-chose. Et il nous a dit, c'est énorme. Enfin, il dit, vous imaginez pas, en fait. Et après, c'est vrai que j'ai fait le calcul pour ramener au coût de la vie et ramener au niveau de vie au Cap-Vert. Bah voilà, on est sur des chiffres qui sont. Enfin, voilà, ça donne une notion, quoi.
Répétez le chiffre.
Environ 550 000 euros.
C'est important.
En gros, voilà. Mais voilà, c'est-à-dire que moi, je reste modeste par rapport à ça. C'est-à-dire ce qu'on fait, c'est vraiment des projets en fonction des gens qui nous suivent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai toujours voulu que l'association, ça soit une association de communication. C'est-à-dire que nous, on veut être près des gens. On a de l'image. Et on a aussi des rapports et des messages à faire passer. C'est-à-dire qu'on ne veut pas travailler dans l'aveugle. C'est-à-dire que quand on fait un travail de développement ou d'aide humanitaire au Cap-Vert, on veut que tous nos adhérents, sachent exactement ce qu'on a fait. Et s'ils nous donnent 10 euros, bah, qu'ils comprennent où est-ce que vont leurs 10 euros. Et pour nous, ça, c'est quelque chose de primordial, quoi.
Jean-Philippe Leroy, je vous propose de nous présenter le deuxième morceau musical que vous allez nous faire découvrir maintenant.
Alors, le deuxième morceau musical, donc ça s'appelle Groupe Nosh Erens. Donc en fait, c'est un groupe de Batouk, donc de Ciudad Vell, donc la capitale de la Batouk, en fait, sur l'île de Santiago. Voilà, donc ça est un petit peu plus mouvementé que le premier morceau.
No llueve tierra, no llueve paña. Ay, hay un artista que nos juegue bien pensado. A nós é um grupo de Batuco, a nós é de cidade velha, não nome chama nos herança, a nós é um artista que nos cuide bem pensado. Bem pensado.
sonho bem pensado. Meu nome chama nós herança. Anha é artista que nos foi bem pensado.
Il y a un climat. Rencontre avec des artistes qui font le spectacle vivant sur Radio BLV.
Et ce soir, nous sommes donc en compagnie de l'association Regarde Ailleurs, Jean-Philippe Leroy, qui en est le président et photographe, et également de Bernard Dupont, bénévole de cette association et qui s'est rendu au Cap-Vert cette année. Est-ce que vous avez sur place des points de chute en termes humains ? Est-ce que vous sentez qu'il peut bientôt y avoir des relais, des gens qui peuvent réceptionner, par exemple, de la marchandise ? Parce que il y a une question que je ne vous ai pas posée tout à l'heure, mais quand vous avez dit 15 000, vous avez dépensé, enfin, apporté 15 000 euros là-bas au Cap-Vert, ce qui représente en gros 550 000 euros, hein ?
Voilà, pour donner une idée.
Voilà, donc vous avez apporté 15 000 euros, mais je suppose qu'en frais de déplacement, d'hébergement, ça vous coûte aussi cher.
Oui, en fait, effectivement, quand on parle de la, enfin, quand on donne des chiffres des projets, effectivement, on compte pas, parce qu'en fait, l'association, bien entendu, ne supporte pas tous les coûts de déplacement, c'est-à-dire que quand un bénévole se déplace sur une action humanitaire, donc que ça soit Bernard, que ça soit Laurence, ou que ça soit moi, le billet d'avion, c'est nous qui le finançons. Toutes les représentations, les actions qu'on fait partout en France, c'est pareil. En fait, c'est financé par les bénévoles. Donc effectivement, quand on dit 15 000 euros d'apporter en fait sur les projets au Cap-Vert,
on multiplie par deux.
On multiplie à peu près par deux pour avoir le budget global de l'association. Effectivement, tout le reste, c'est des apports de bénévoles. Et c'est sûr que si on n'avait pas ces apports-là, on ferait rien, quoi. En fait, ça c'est évident. Aujourd'hui, il est hors de question de financer un billet d'avion pour aller au Cap-Vert. Ça, c'est pas possible.
D'accord.
Aujourd'hui, quoi.
D'accord. Alors, est-ce que vous sentez que ça commence à bouger sur place ? Est-ce qu'il y a des gens avec lesquels vous pourriez travailler et leur confier de certaines tâches ?
Alors,
est-ce qu'il y a des relais ?
Oui, alors on a déjà des relais, on a des relais sur les deux îles sur lesquelles on travaille. Donc on a, je pense, tu l'as rencontré, Bernard, le monsieur. Ouais, donc Mike, c'est le représentant du ministère de l'éducation, mais on a aussi donc Fernando, en fait, donc une personne qui s'occupe de gérer, je dirais, dès qu'on a un petit souci depuis la France, pour avoir une information justement pour si on envoie du matériel, pour récupérer du matériel sur un port, etc. On a une personne qui s'occupe de tout ça en local. Nous, on aimerait développer presque une antenne, en fait, là-bas au Cap-Vert, pour avoir un représentant qui veille un petit peu sur l'avancement des projets, si tout fonctionne bien dans les écoles, s'il n'y a pas des manques, etc. parce que c'est toujours un petit peu difficile de gérer un projet depuis la France, c'est-à-dire que bon là, il se trouve qu'on a eu la chance de pouvoir y aller deux fois en 2009, peut-être que l'année prochaine on n'ira pas, ou voilà, donc c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un sur place pour nous faire aussi un recueil de besoins, c'est-à-dire qu'on on aime bien travailler sur des projets qui soient des projets utiles, et on veut pas dire bah voilà, cette année on fait ça parce qu'on a décidé qu'on faisait ça, on colle vraiment besoin. Donc des relais sur place on en a plein, parce que bon, les îles sont quand même malgré tout petites, dès qu'on se déplace un peu partout on est rapidement connu. Maintenant, pour trouver une personne qui va gérer sur place un projet qui va porter un petit peu l'association, ça c'est quelque chose, c'est une étape supplémentaire, c'est un petit peu plus difficile à mettre en place. Il faut vraiment qu'il y ait de la confiance, il faut trouver quelqu'un qui ait des moyens de communication qui soit accessible, donc c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place. On essaye de le faire, mais c'est pas facile.
Quels sont les projets pour l'année 2010 et comment vous les avez élaborés, ces projets?
Alors les projets 2010, donc en fait on est dans la continuité du projet 2009, donc je le rappelle pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission au mois de mars, en fait aujourd'hui on est sur des projets de développement, donc là c'est vraiment un projet donc sur lequel nous on adhère, mais qui émane du ministère de l'éducation au Cap-Vert, c'est de créer de l'autonomie dans les cantines. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui en fait les cantines reçoivent de la nourriture du programme alimentaire mondial. Ce programme, ça fait 30 ans qu'il existe, se termine en juin 2010. Donc aujourd'hui il faut essayer de trouver des solutions pour rendre les cantines autonomes. Donc aujourd'hui on est sur un programme de financement de matériel de stockage dans les cantines sur l'île de Saint-Nicolas. Particulièrement, on a commencé cette année. Donc pour 2010, on va terminer cette action, c'est-à-dire de livrer un congélateur dans chacune des écoles. Alors bien entendu, celles qui ont l'électricité, les écoles qui n'ont pas l'électricité, c'est un projet à part. On y réfléchit, c'est-à-dire qu'il y a le solaire, il y a tout un tas de choses comme ça. Les gens du gouvernement nous disent que ce n'est pas la peine d'y réfléchir parce que tout le Cap-Vert aura l'électricité fin 2010. Donc ça, c'est un message du Premier ministre. Nous disent tous, comme ils disent, qu'en certaine, l'électricité est tout le grand Cap-Vert. Mais pour moi, c'est
Est-ce
pas...
Est-ce que ça veut dire qu'ils sont aussi là-bas déconnectés des réalités?
Bah oui, bah, enfin.
C'est un message politique, mais bon, est-ce qu'il sera suivi, quoi? C'est le problème, quoi.
Voilà, la politique reste de la politique. Alors après, voilà, pour nous, c'est des projets qui vont être plus conséquents en termes financiers. C'est sûr que de monter un système solaire. Alors, on est en train de regarder, notamment Bernard.
On y réfléchit, mais on se pose la question, est-ce qu'on doit attendre? C'est une hésitation pour le moment, quoi.
Alors, attendre quoi? Par rapport à la date qui vous a été communiquée par le ministère?
Voilà. On se dit s'il faut financer du matériel solaire qui est un investissement lourd. Si fin 2010 l'électricité est arrivée dans les lieux où on veut qu'il y ait de l'électricité, c'est peut-être un financement pour rien, quoi. Donc la difficulté, c'est de faire la part des choses entre ce que disent les politiques et la réalité, quoi.
Et le solaire, par exemple, pour l'installer, il y aura de la main-d'œuvre sur place ou c'est vous qui allez vous en charger?
Je pense qu'il faudra qu'on...
Non, il faudra s'en charger.
On s'en charge,
oui. On aura du soutien, on aura de la main-d'œuvre qui va venir nous aider, mais... Il faut un organisateur, voilà. Parce que
là-bas
il y a beaucoup de bonne volonté, mais il faut gérer, quoi. Il faut vraiment gérer, quoi. Donc pour terminer avec ça, donc on va finir d'équiper toutes les écoles d'un congélateur sur l'île de Saint-Nicolas. On a acheté 6 cette année, donc un qu'on a mis à la délégation scolaire, un grand, et on en a acheté 5 autres qu'on a livrés au mois de novembre. Et l'idée, c'est d'en acheter encore 5 autres pour les écoles qui sont reliées à l'électricité. Et les 3 écoles qui ne sont pas reliées, on va donc bien sûr vérifier qu'elles aient l'électricité en 2010. Et si elles l'ont, à ce moment-là, on financera aussi un congélateur. Donc ça, c'est pour l'aspect scolaire. Et on a un projet un petit peu plus ambitieux. C'est de développer en fait une micro, on peut appeler ça quoi, une micro-entreprise, j'aime pas trop ce terme, mais en gros l'idée c'est d'acheter du matériel de pêche, donc un bateau, un moteur, des filets, du matériel, enfin des habits de pêche, c'est-à-dire vraiment un outillage pour partir en mer. Pour 3 pêcheurs, et donc l'idée en fait c'est d'aller à la pêche, de ramener du poisson. Donc les pêcheurs sont responsables du bateau et responsable de la pêche. Derrière, on emploie une personne qui va être gestionnaire en fait de la du poisson et qui va gérer en fait les, toutes les sorties mer chaque jour. Et l'idée après, c'est de donc c'est de vendre le poisson et c'est de diviser un petit peu la, la, la quantité de poisson en trois parties. Donc la première partie, ça sera pour rémunérer les pêcheurs. La deuxième partie sera pour en fait faire une provision pour faire le l'entretien du bateau et acheter le combustible. Et la troisième partie, c'est une distribution gracieuse dans les écoles. C'est-à-dire que l'idée, c'est de leur donner les moyens d'eux et après de faire une autogestion en fait, donc payer des gens qui vont bosser, une personne qui va gérer et puis une distribution dans les écoles. Donc l'idée, on aimerait mettre ça en place en 2010. Vous avez une question peut-être, non ?
Non, non, mais ce sera ça après, allez-y.
Voilà, donc en fait l'idée c'est j'aimerais bien, enfin l'association Regarde d'ailleurs et Merveille mettre ce projet en place en 2010 ou début 2011. Donc on a déjà fait un estimatif du coût de ce projet. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on veut pas laisser tomber aussi les projets qui sont purement de développement pour les écoles. Donc aujourd'hui on va être confronté à un problème de ressources financières. Donc c'est pour ça que là on va essayer de trouver des alternatives pour avoir des financements ou pour pouvoir vendre des supports à des entreprises, etc. pour la fin d'année. Donc on est en train de travailler là-dessus, quoi.
Bon, vous avez beaucoup parlé des écoles, des enfants, de la nourriture. Est-ce qu'on peut employer le mot de malnutrition ? On n'en est pas là ?
Non. Enfin, non, je sais pas ce que t'en penses toi, Bernard, mais non, je pense pas.
C'est pas malnutrition au sens
somali, quoi. Enfin, voilà.
Mais c'est malnutrition au point de vue
équilibre.
Diététique, quoi.
Enfin, ouais.
Équilibre. Il y a certainement des carences.
Des problèmes dentaires qui viennent. Bien sûr des problèmes d'hygiène dentaire, mais aussi des carences alimentaires. Et puis c'est vrai que si bon aujourd'hui, même si le repas à l'école il est pas sensationnel, ils ont quand même un repas à l'école. Si à partir de 2010 ils en ont plus, bon voilà, on arrive dans un système qui est quand même
alors ça signifie quand même aussi que les autorités portugaises n'ont rien apporté au Cap-Vert. Ils n'ont pas cherché à développer ce coin.
Je pense pas qu'on puisse dire ça. Bon, les autorités portugaises, moi, on les voit pas spécifiquement. Enfin, en tout cas, moi, dans les actions qu'on a fait et dans les entourages, on n'en a pas entendu énormément parler. Maintenant, je pense qu'ils font des choses.
Excusez-moi, je me suis mal exprimé sûrement. Je parlais de pendant l'occupation portugaise jusqu'en 1970, en gros.
Ouais, c'est ça. L'indépendance, c'était 75,
voilà, jusqu'à l'indépendance.
Alors là, je ne sais pas répondre.
Disons que après, c'est tout, je pense, le problématique du pays qui devient un petit peu indépendant. Après, on met en place un système de une politique en fait localisée. Et est-ce qu'ils ont été aveuglés, enfin moi c'est encore mon point de vue, hein, par le développement touristique qui allait embellir et puis donner du travail à tout le monde et que ça allait être génial. Et je pense qu'on a oublié de s'occuper de l'essentiel, quoi. Enfin, et résultat des choses, en fait, on a travailler pour les investisseurs immobiliers, etc. Et aujourd'hui, je pense que le retour sur investissement pour la population locale, il est très faible, pour ne pas dire inexistant.
Vous ne nous avez pas parlé de la plantation d'une vigne expérimentale. Est-ce votre passion commune qui nous a fait amener des cèpes de vigne ?
Ouais, alors là c'est un autre sujet. Effectivement, le voyage, il avait un double objectif. Quand je suis parti donc l'été dernier pour revenir cet hiver, donc je sors d'une formation à l'université du vin de Suze-la-Rousse, et donc la formation se termine donc par l'obtention d'un diplôme, et pour obtenir ce diplôme il est nécessaire d'écrire un mémoire en fait sur un sujet ayant rapport avec le vin au sens large. Donc en fait moi je me suis dit je vais partir au Cap-Vert faire une étude sur le vignoble capverdien, puisqu'il existe un vignoble sur l'île de Fogo, donc dans un cratère de volcan. Donc je suis parti un mois là-bas pour écrire un mémoire sur le vin de Fogo, comment il est élaboré, comment sont plantées les vignes, etc. Et mon objectif final, il était de ramener de la vigne sur l'île de Saint-Nicolas, mon île de cœur, on va dire, du Cap-Vert, pour tenter une expérience dans un parc naturel où pour moi intuitivement la vigne pourrait pousser et on pourrait imaginer développer la viticulture et pourquoi pas faire du vin sur cette île. Donc voilà, donc j'ai malgré quelques péripéties réussi à amener des plants de vigne en fait sur Saint-Nicolas. Donc en interne, hein, c'est-à-dire que ces plants de vigne viennent de Fogo pour aller sur l'île de Saint-Nicolas. Donc ça a été vraiment très 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 difficile.
Et avec les autorités, comment ?
Bah, disons qu'en fait, ce qui a été problématique, c'est le transport. On en revient toujours à la même chose. Donc en fait, pour faire transporter des vignes de Fogo jusqu'à Saint-Nicolas, il n'y a pas de bateau en fait direct. Donc le problème, c'est qu'il faut trouver quelqu'un qui prenne la vigne, la mette dans un autre bateau, etc. Je vous vois regarder l'heure. C'est...
Allez-y, il vous reste 6-7 minutes.
Ça, je ne vais pas pouvoir finir, là, je le sens. Et donc, en fait, c'est très compliqué. Donc, l'objectif, ça a été de trouver un bateau qui m'amène la vigne jusqu'à Saint-Nicolas. Ça n'a pas été possible. Donc pendant un mois j'ai cherché un bateau et en fait j'ai trouvé un bateau de marchandises qui faisait une liaison qui rapprochait en fait la vigne de Saint-Nicolas mais qui ne l'emmenait pas sur Saint-Nicolas. Donc j'ai été obligé de la chercher d'aller sur une autre île pour la chercher, mais il a fallu que j'envoie des gens la chercher parce que mon bateau est arrivé 3 jours après le bateau. Enfin c'était vraiment une histoire abracadabrante. Et après arrivé pour prendre le bateau pour retourner sur l'île où je voulais la planter, on m'a dit non monsieur, vous avez pas le droit d'emmener de la vigne sur le bateau. J'ai dit attendez, vous rigolez là. Je dis moi je me suis déplacé spécialement pour ça, ma vigne elle va aller sur le bateau quoi. Donc en fait ça a été de 8h du matin jusqu'à 22h une journée pour me battre pour mettre mes 60 pieds de vigne sur le bateau quoi. Et c'est vraiment la folie quoi. Dès qu'il y a une problématique de transport, il n'y a personne qui est responsable, mais par contre on n'a pas le droit d'eux, on n'a pas le droit de faire ci, faire ça. Donc après j'ai eu la chance de connaître le capitaine du bateau et en discutant un petit peu on a réussi à y arriver quoi.
Et alors en même temps je suis très très intéressé par ce que vous dites, parce que moi je me dis que en même temps il faut savoir rester très modeste, parce qu'on peut très bien tomber dans comme donneur de leçons.
Oui.
Hein, et parfois vous avez pas peur de basculer là ? Non, vous êtes toujours vigilant.
Ouais, je reste vigilant, d'autant plus que à chaque fois je leur explique bien que je le fais, c'est pour eux quoi. C'est-à-dire que moi ce que j'entreprends là-bas, je le fais pas à mon compte. C'est-à-dire que là, l'idée que j'ai de développer la viticulture là-bas, je le fais pas à mon compte. L'idée c'est de développer quelque chose là-bas pour donner du boulot à des gens qui ont un bout de terrain, qu'on plante de la vigne et qu'on en fasse du vin. Disons qu'après, moi je pense pas me positionner en tant que donneur de leçons. Je reste toujours vigilant. Par contre, ce qui est pénible, c'est qu'à chaque fois, on est là à aider un petit peu le pays. Il y a toujours des embûches qui vous empêchent d'y aller de façon directe, quoi. C'est-à-dire que quelque chose qu'on peut faire, même si on a un système administratif qui est un peu lourd chez nous, quelque chose qu'on peut faire en une demi-journée au Cap-Vert, il faut 3 semaines, quoi. Je caricature volontairement, hein, mais je suis pas loin de la vérité, quoi. C'est vraiment des fois pénible, quoi.
Il faut beaucoup de patience, Bernard.
Oui, j'ai pu m'en apercevoir parce que ce que je pensais qu'on allait faire en quelques jours, j'ai mis tout le temps que j'ai consacré au Cap-Vert pour le faire, quoi. Parce que
il a même pas participé à la distribution des congélateurs, c'est-à-dire qu'il a tout préparé avec nous, mais en fait les congélateurs sont arrivés.
Ouais, mais quand on sait que c'est la règle du jeu, quoi, que c'est comme ça. Hein.
Exactement,
ouais.
C'est-à-dire que maintenant moi
je l'ai découvert voyage-là, mais c'est vrai que.
C'est vrai que c'est compliqué, mais ça n'empêche pas que c'est des gens qui sont superbes et que j'y retournerai sans arrêt de toute façon jusqu'à ce que je meure, quoi. Donc là il y a aucun souci de ce côté-là, mais c'est vrai que nous avec nos habitudes, nos façons de travailler, c'est vrai que on arrive à être un peu agacé sur des points qui bloquent, qui ne devraient pas bloquer en fait. Surtout c'est dans leur intérêt, quoi.
Il vous reste 3 minutes pour nous parler de votre association, nous dire comment on fait pour vous contacter par téléphone, par écrit, sur internet.
Ouais, expliquez-nous tout ça. Tout est possible de nos jours. En 2010, tout sera possible aussi.
Donc un spécialiste d'informatique.
Voilà, donc on a notre site internet, bien entendu. Alors, je ne vais pas donner les références, mais vous tapez dans Google "regarde plus loin ailleurs" et vous allez tomber sur notre site très facilement. Autrement, on a un mail, bien entendu, regarde.ailleurs@free.fr. on a même 2 numéros de téléphone. Donc le numéro du fixe c'est le 09 53 94 00 11, le portable 06 61 44 41 07. Voilà, et donc n'hésitez pas à nous appeler, parce qu'on est, relativement motivé, on manque souvent de ressources humaines.
Vous êtes pour... relativement motivé, là vous êtes trop modeste là. Hein ouais. faire tout ça, il ne faut pas être que relativement motivé.
Non, mais c'est vrai qu'on est motivé, on a un projet de soirée capverdienne pour le mois de mai, donc on va avoir besoin de main. Donc s'il y a des gens qui sont motivés pour nous donner un coup de main pour organiser ça, on est plutôt preneurs, quoi. Voilà, donc tous les gens qui veulent s'investir, on est prêt à les accueillir sans aucun problème, quoi.
Comment fonctionne votre assemblée générale, votre association? Il y a une assemblée générale.
Il y a une assemblée générale qui va avoir lieu le 29 janvier 2010 à Châteaudoube, donc le siège social de l'association. Donc c'est public, donc tous les gens qui veulent s'y rendre, ça sera le 29 janvier à 20h, je crois. Bernard, c'était là la réunion de préparation. Ouais, je crois que c'est ça, c'est 29 janvier 20h à la salle communale de Châteaudouble. Donc vous êtes tous conviés à venir nous voir là-bas.
Un dernier mot, le dernier.
Le dernier.
Allez.
Bah, on a squeezé un morceau de musique.
Oui, même deux.
Ah, même deux. Ouais,
même deux. Oui.
Ouais, bon, bah c'est non, mais bon, voilà. En tout cas, on est vraiment heureux d'avoir fait cette découverte de ce pays. Moi, je suis content que Bernard soit venu cette année, parce que c'est sûr que s'il n'y avait pas eu cette association, est-ce que Bernard serait allé au Cap-Vert? J'en suis pas sûr.
Je pense pas. Non.
Donc voilà. Et puis les gens autour de nous, ben, c'est vrai qu'on fait découvrir malgré tout à notre petit niveau le Cap-Vert. Les gens s'y intéressent, se posent des questions, etc. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose de gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on agit sur place, mais aussi on fait des choses dans la Drôme et même dans la France pour faire découvrir le pays du Cap-Vert qui est connu pour moi que sous son angle touristique.
Et musical.
Ouais, musical par contre, ça c'est plutôt sympa, quoi.
Bah écoutez, merci d'avoir passé cette heure et quart en notre compagnie. Nous comptons sur vous si vous organisez cette fête.
Bien sûr.
Au mois de mai.
On vous informera bien avant. On sait qu'il y a une
organisation. Vous amènerez les CD qu'on n'a pas pu écouter aujourd'hui.
Sans aucun problème.
Merci.
Merci.
Et bien, à bientôt.
À bientôt.